Le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. Voici les titres. Recrutement d'enfants des groupes armés opérant en province orientale et au Nord Kivu pointés du doigt. La MONUSCO et ses partenaires dénoncent le fait que des enfants de moins de 17 ans sont utilisés comme des combattants. Un crime de guerre, selon eux. Une campagne de sensibilisation est menée pour dissuader les auteurs de ces recrutements et conscientiser la population. Comment amener pygmées et bantous à vivre ensemble dans le district de Tanganyika au Katanga, la MONUSCO s'y attelle. La section des affaires civiles de la mission a organisé la semaine dernière à Kalemi une session sur le règlement des conflits entre les communautés de la région. Les détails dans cette émission. Nous avons également un invité, Jean-Pierre Elali Ikoko, il va vous le présenter.
Nous recevons M. Stefano Sever, il est le représentant régional du ACR. Et vous comprenez, Lydie, c'est pour parler de la Journée internationale des réfugiés célébrée le 20 juin dernier. Et à cette occasion, le représentant régional du ACR a choisi les camps de Molé pour communier avec les réfugiés centrafricains. C'est près de la ville des Zongo, dans la province de l'Équateur. Alors, quels sont les défis qui attendent le ACR et comment assurer une bonne prise en charge de ces réfugiés? Notre invité va nous en dire plus.
Merci Jean-Pierre et à tout à l'heure.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
L'actualité de la semaine partira de la province orientale et du Nord Kivu où la MONUSCO fait état de recrutement d'enfants par des groupes armés. Des enfants de 12 à 17 ans ont été utilisés dans ces deux provinces non seulement comme combattants mais aussi comme des gardiens ou cuisiniers. Pour lutter contre ce fléau, la MONUSCO et ses partenaires ont organisé des manifestations de sensibilisation à travers l'Est de la RDC. Charles Bambara, directeur de la division de l'information publique et porte-parole de la MONUSCO, a dénoncé ces recrutements qu'il a qualifiés de crimes de guerre. C'était mercredi dernier à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Ces propos ont été recueillis par Jean-Pierre Elali Ikoko.
Pendant la semaine écoulée, la section protection de l'enfant a documenté les cas de 12 enfants, dont 2 filles, associés aux groupes armés. Le recrutement a été perpétré par UPCP, FRPI, PARECO, PRM et ADF. Les victimes âgées de 12 à 17 ans ont été recrutées entre 2010 et cette année en province orientale et au Nord Kivu. Nombreux d'entre eux avaient moins de 15 ans, ce qui constitue un crime de guerre. Ils ont été utilisés comme combattants, gardiens de fétiches, cuisiniers et pour chercher de la nourriture et forcés de travailler dans une ferme.
Autre actualité, c'est la publication mercredi à Kinshasa du rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le BCNUDH dénonce les violations des droits de l'homme au cours du mois de mai 2014. Selon ce rapport, 209 violations des droits de l'homme ont été enregistrées sur le territoire de la RDC, ce qui représente une légère diminution par rapport au mois d'avril dernier. Les violations rapportées sont des atteintes aux droits de la propriété et des atteintes aux droits à la vie. Les provinces les plus touchées sont les deux Kivu et la province orientale. Chaoyo Abdelaziz, directeur adjoint au BCNUDH, revient ici sur les auteurs de ces violences, toujours au micro de Jean-Pierre Elali Ikoko.
L'ensemble de ces violations, pour la moitié, sont attribuées aux agents de l'État, 50%. Quand je dis agents de l'État, il faut comprendre pour ce mois-ci les militaires FARDC, également les agents de la police. Les FARDC, 30% et la PNC, 20% du nombre total de ces violations qui ont été documentées au cours du mois de mai 2014. Les combattants des groupes armés, notamment les Mai Mai, toutes obédiences confondues, ainsi que la LRA, sont auteurs des 50% de l'ensemble des violations que nous avons documentées.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Plus de 4500 enfants de la rue à Kinshasa ont été ou sont encore pris en charge dans le cadre du projet EDR, Enfants dits de la rue, un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 10 millions de dollars américains. Robert Maloui Kisaya est un expert du gouvernement auprès de la Banque mondiale pour ce programme. Il explique comment il s'exécute au micro d'Honoré Missenga Kalala.
Par rapport à ce projet, nous avons le mandat de faire la prise en charge des enfants en assistance et de faire la prévention pour que les enfants ne tombent pas dans la rue. Là, nous développons nos actions sur 12 communes Dans 4 communes, nous faisons la prévention. Dans 8 autres communes, nous faisons l'assistance.
Et la prévention, c'était comment?
La prévention, notamment à Bumbu, à Kimbanseke, Massina et Limété, ça se fait par des communications, par des causeries. Et nous avons recruté donc des ONG qui font des réseaux communautaires de protection de l'enfant, leur cheval de bataille. Et c'est donc des mamans, des papas qui se réunissent avec nos partenaires recruteurs pour cet effet et qui travaillent pour détecter les cas de violation de la loi portant protection de l'enfant. Et lorsque parfois ces violations peuvent parfois amener les enfants à aller dans la rue, il y a donc des actions d'aller en justice ou parfois même d'essayer de mettre dans la communauté d'autres comportements. Et pour que les enfants n'aillent pas dans la rue.
Ça, c'est le volet prévention. Alors maintenant, le volet assistance.
Le volet assistance est beaucoup plus profond parce que là, il s'agit d'identifier d'abord les enfants dans la rue, de les convaincre d'entrer dans un centre d'hébergement. Et c'est ce que nous appelons, nous, point d'écoute. Donc là, on les identifie, ils viennent vers nous au travers de ONG. Nous les emmenons au centre d'hébergement et là-bas, ils ont un choix. Soit selon l'âge, selon le prérequis, de faire l'éducation formelle ou l'éducation non formelle, c'est-à-dire l'alphabétisation, le rattrapage scolaire ou alors la formation professionnelle. Et c'est ainsi que ces enfants ont maintenant les capacités de commencer une nouvelle vie que celle de la rue. Les centres vont jusqu'à 50 enfants par centre, au-delà parfois 73. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés pratiquement à près de 4500 enfants que nous avons pris en charge dans ce volet, sans compter ceux qui sont en dehors des centres et que nous amenons progressivement en accompagnement psychosocial, en formation professionnelle, en éducation formelle. Ils font leur cours scolaire normal ou alors ils ont appris l'alphabétisation. Mais au-delà, nous commençons le processus de réunification familiale et cela commence par détecter où sont les parents. Causer avec le parent, c'est ce que nous appelons rétablissement des liens familiaux. Et après arrivent les étapes de médiation. Et finalement, l'enfant commence à parler avec la famille. Mais entre-temps, comme vous voyez sur les photos, l'enfant est en train de suivre une formation. Les parents ont un autre regard sur cet enfant. Et progressivement, cet enfant arrive à terme et il a un kit de réinsertion. Et nous le réunifions en famille.
Ce projet a quand même une durée.
Ce projet a une durée de 5 ans. Nous avons déjà traversé le cap de 3 ans. Nous sommes à la 4e année. L'année prochaine, en 2015, nous aurons fini le projet.
Quelle est l'enveloppe qui a été mise pour ce projet?
Nous avons eu en gros 10 millions de dollars américains sur fonds IDA à la demande du gouvernement. Le gouvernement a obtenu ce fonds et mis ce projet sous la tutelle du ministère des Affaires sociales avec une unité de gestion de projet dans laquelle j'ai œuvré comme expert.
Donc, ce projet ne concerne que Kinshasa?
Pour le moment, ce projet n'a concerné que la ville de Kinshasa. Mais par rapport à certaines spécificités, l'entièreté du pays a été concernée pour certains renforcements de capacités, notamment savoir mettre les bases de données en place.
Oui, mais après 2015, qu'est-ce qui va se passer?
Ce qui va se passer, ou disons ce qui s'est passé pendant tout le temps du projet, c'est que le projet a eu à préparer le ministère des Affaires sociales, dont c'est le mandat, à assumer ses responsabilités de prendre en charge les enfants dits de la rue. Et c'est comme ça que progressivement, les directions normatives et les directions spécialisées du ministère des Affaires sociales ont acquis des capacités, de nouveaux mécanismes de prise en charge de ces enfants. Et c'est comme ça que, évidemment, le projet a préparé l'appropriation de ce projet par le ministère des Affaires sociales, dont c'est le travail régalien.
Oui, vous avez déjà assisté, dans le cadre du projet, plus de 4500 enfants. Est-ce qu'on peut connaître la proportion des filles?
Le pourcentage de filles est évidemment moindre que ceux des garçons, mais c'est pratiquement près de 45 à 48% constitué de filles. Vous voyez les photos là. Nous avons sorti samedi dernier 40 filles de la rue qui ont appris le métier de coupe et couture et d'esthétique. Les filles sont nombreuses, elles sont même parfois dans les travaux de mécanique générale, réparation de véhicules. Elles sont partout et les filles sont proportionnellement nombreuses, mais la particularité c'est qu'elles sont parfois avec leurs enfants.
peut-être un vœu, une recommandation par rapport à ce projet.
Le vœu, c'est que avec tout ce que nous avons fait, ça a eu un coût. Sans les moyens que la Banque mondiale a mis à notre disposition, tous ces miracles de voir les enfants quitter la rue et réintégrer la famille n'auraient pas eu lieu. Même si le ministère des Affaires sociales peut faire ce travail, il va se poser un problème de moyens, et de moyens durables, et de moyens conséquents pour tout l'équipement, toute la logistique nécessaire, et surtout le renforcement des capacités. C'est vrai, ça a eu lieu, nous avons fait ça. Nous avons formé des assistants sociaux, nous avons formé des enquêteurs, nous avons formé des éducateurs, mais maintenant il sera question de moyens. Et si ces moyens peuvent venir, ce serait une bonne chose. Et par-delà, le projet n'essaie occupé que de la ville de Kinshasa. Je crois que s'il y a quelque chose que nous pouvons souhaiter, les 40 000 enfants qu'on avait déchiffrés aux enquêtes de 2009 ont déjà dépassé ce nombre, c'est sûr, avec tout ce qu'il y a comme problèmes sociaux. Et bien donc, il ne faudrait pas que ce projet s'arrête seulement qu'à Kinshasa et qu'il puisse être disséminé avec la capitalisation des expériences que nous avons faites, que cela puisse aller au-delà de la ville de Kinshasa.
En d'autres termes, il faut que la Banque mondiale soit disponible pour d'autres projets.
Oui, en fait, en cela, je veux dire que nous demandons la disponibilité de la Banque mondiale pour continuer à accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo, à continuer à accompagner le ministère des Affaires sociales pour l'atteinte des résultats durables sur ce phénomène qui n'a que trop duré. Ça fait déjà quatre générations des enfants de la rue depuis que le phénomène a commencé. Le premier ont eu des enfants, la deuxième génération a mis des enfants dans la rue, la troisième et la quatrième. Et ça devient un phénomène extrêmement grave et on ne peut pas, dans un pays, aller vers un développement avec autant de personnes sur la rue et avec la possibilité qu'ils ont d'en faire eux-mêmes sur la rue.
Merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Volet humanitaire pour ouvrir cette page. 13 millions de dollars américains pour assister les déplacés et retournés pour les 6 prochains mois dans les provinces du Katanga, du Nord Kivu et de la province orientale. L'information a été livrée mercredi dernier par OCHA. Ces fonds accordés par le coordonnateur humanitaire en RDC se repartiront comme suit. 5 millions de dollars pour le Katanga, 4,8 millions pour la province orientale et 3,2 millions pour le Nord Kivu. Deux nouvelles écoles réhabilitées au Nord Kivu dans le cadre du projet Éducation en urgence de l'UNESCO. La remise officielle de ces ouvrages a eu lieu mercredi 25 juin à l'Institut Mubambiro sur la route de Sake. Le projet Éducation en urgence est financé par le gouvernement japonais. Il consiste pour l'UNESCO à réhabiliter 180 classes de 30 écoles situées aux alentours des camps Mugunga 3 de Kanyarushina et du Lac Vert, de les équiper, de former les enseignants et le personnel de la division provinciale de l'EPSP. Les écoles remises sont le lot de la première phase de ce projet. Les cadres du ministère du Plan, tant au niveau national que des provinces, ont participé du 25 au 27 juin 2014 à Kinshasa à une formation sur la politique économique de la RDC. Une formation organisée dans le cadre du projet de renforcement des capacités en gouvernance. Un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale à hauteur de plus de 115 millions de dollars américains. C'est un consultant international de la Banque mondiale, le professeur Eboué Chico de l'Université de Lorraine, qui a animé cette formation.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le 20 juin dernier, la communauté internationale a commémoré la journée internationale du réfugié. Une délégation du HCR s'est rendue au camp des réfugiés centrafricains de Molé. C'est à 35 km de la ville de Zongo, dans la province de l'Équateur. Le représentant régional du HCR et toute la délégation ont passé la journée avec les quelques 12 000 réfugiés centrafricains. Monsieur Stefano Severé fait le point sur sa visite et surtout sur les défis à relever pour une bonne prise en charge de ces réfugiés. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Bonjour, monsieur le représentant régional d'ISR.
Oui, bonjour à vous.
Vous venez de Kinshasa à Zongo et plus particulièrement ici au centre réfugié de Molé, le réfugié centrafricain. C'est tout à fait très symbolique cette journée du 20 juin, la journée des réfugiés. Vous êtes ici. Est-ce que vous avez un message particulier à ces 12 000 réfugiés qui sont logés ici dans ces sites?
Oui, bon, on a choisi Molé effectivement parce que c'est un site qui nous a posé quelques soucis. C'est un peu naturel parce que c'est un site qui est composé de réfugiés qui viennent surtout de la ville de Bangui et des alentours. Il y a beaucoup de jeunes et naturellement ils ont des exigences, je dirais, différentes que peut-être les autres réfugiés. Mais vous savez, on a plus de presque 200 000 réfugiés en RDC, mais la majorité vivent généralement heureusement abrité par les populations. Et ici, on a 4 camps, comme vous le savez, ou 4 sites en RDC. Et tous les 3 sites qui sont en province électorale, ils ont à peu près la même taille. Donc, j'ai pensé venir à Molé pour un peu faire le suivi de quelques messages de paix qu'il fallait donner, parce qu'il y a eu quelques petits soucis dernièrement. Et c'était un peu ça le choix, mais naturellement des célébrations similaires se font dans tous les sites et même avec les groupes de réfugiés urbains, que ce soit à Kinshasa, à Lubumbashi, Bukavu, etc.
Vous venez de parler tout de suite là de quelques soucis que vous avez concernant ces camps, mais en attendant ces réfugiés, ils parlent beaucoup plus des difficultés qu'ils rencontrent, notamment la ration alimentaire qui n'est pas assez suffisante. L'argent qu'on leur donne qui n'est pas suffisant et aussi il y a tout un vœu, ils veulent rentrer chez eux, ils ne veulent plus rester dans ces conditions. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez un commentaire là-dessus?
Bon, je pense sur la dernière question, naturellement nous voyons encore plus d'une centaine de réfugiés qui arrivent vers le camp de Molé chaque semaine. On a eu même des périodes où il y a eu voire 200 à 300 par semaine et en tout la moyenne par mois c'est encore 2000 hein, qui arrivent de la Centrafrique vers les différents camps ou sites de l'Équateur. Donc la situation malheureusement n'est pas encore à notre avis suffisamment sécure pour que les réfugiés puissent rentrer, mais naturellement ils sont venus d'eux-mêmes, le processus est volontaire, on n'est pas très loin des frontières, suffisamment loin pour qu'on puisse bien les protéger. Mais aujourd'hui je pense que c'est un peu prématuré compte tenu du fait qu'il y a encore des réfugiés qui arrivent de parler de retour.
Et qu'est-ce que vous dites des rations qui ne sont pas suffisantes et puis même de l'argent qui ne leur permet pas de vivre comme il faut?
Bon, là nous travaillons très étroitement avec le... naturellement vous savez que aujourd'hui c'est toute l'aide humanitaire qui a des défis, hein, n'est-ce pas, de financement, et le PAM fait naturellement de son mieux et ensemble nous essayons de mobiliser des ressources. Donc le fait que une partie de la nourriture était transformée en argent, ce n'est justement c'est un geste qu'on remplace la nourriture manquante. C'est plutôt des problèmes logistiques. L'Équateur est très enclavé. Le fait que la route traditionnelle de Douala via Bangui n'est plus ouverte pour acheminer des aides humanitaires, tout doit venir par le fleuve et donc ça représente des défis logistiques très importants au PAM. C'est vrai que quand on prend le montant et surtout que beaucoup d'entre eux sont des ménages uniques, donc naturellement ça a l'air d'être très peu. Quand tu vois naturellement le montant qui est donné, c'est pour remplacer précisément l'intrant manquant. Et naturellement, si tu as une personne, ça peut apparaître peu. Mais nous sommes tout le temps avec le PAM en train de faire aussi des recherches du marché. Nous nous rendons compte que les prix ne sont peut-être pas les mêmes dans toutes les localités, compte tenu aussi de la proximité de Bangui qui elle-même absorbe un certain volume de la nourriture qui est produite ici.
Toute dernière question. En Afrique, on est en Afrique. Un père de famille, lorsqu'il vient voir les enfants, il ne vient pas les mains vides. Qu'est-ce que vous avez apporté à ces réfugiés?
Bon, aujourd'hui, nous avons essayé quand même de symboliquement, on a pu acheminer très rapidement la maternité, donc qui était construite en 2 mois. Bon, il y avait déjà une maternité avant, mais les conditions étaient, c'est une maternité temporaire. avec la terre battue. Là, on a quand même pu présenter un bâtiment en dur, en bonne et due forme, qui permettra d'avoir des conditions hygiéniques et, je dirais, aussi confortables pour les mères de pouvoir accoucher. Pour les jeunes, on est venu avec quelques ordinateurs. Il y a ce centre.
Combien au total?
Bon, aujourd'hui, je crois que j'en ai vu que 3, mais l'idée, c'est d'équiper toute la salle avec 25 unités. Donc, naturellement, nous devons aussi mettre les panneaux solaires pour l'électricité. Et on est en train de faire venir l'équipement pour après accéder à l'informatique. Mais je dois aussi dire, je dois féliciter les jeunes qui ont pris leur propre initiative avec les livres qu'ils avaient pu emporter. Ils ont créé une petite bibliothèque et on doit féliciter ça. Et peut-être on pourra solliciter un peu un appui à Kinshasa. Je ne sais pas, peut-être même parmi le staff des Nations Unies, de la MONUSCO, de peut-être partager un peu les livres que l'un et l'autre a pour alimenter cette bibliothèque.
Et il y a les camps de moines pour terminer, mais il y a aussi les centres de transit des Zongo. Est-ce qu'il y a quelque chose là?
Bon, il y a naturellement, vous savez que le conflit en République centrafricaine a pris naturellement une tournure avec une certaine connotation religieuse, même que le problème de fond n'est pas religieux, mais certaines communautés craignent de se joindre au site de Molé et préfèrent rester dans les familles d'accueil ou pour le moment dans le centre de transit. Mais le centre de transit, c'est une structure temporaire. Et normalement, elle est là pour accueillir les nouveaux réfugiés, pour les transférer au site de Molé.
Monsieur le représentant régional, je vous remercie.
Okay, merci à vous aussi.
Comment obtenir une meilleure cohabitation intercommunautaire dans le district du Tanganyika? C'est l'objectif d'une session de formation sur la gestion des conflits entre différentes communautés et particulièrement entre Bantou et Pygmées. Une session organisée la semaine dernière à Kalemie par la section des affaires civiles de la MONUSCO. Monsieur Alioune Kané, superviseur de cette section, explique ici l'importance de cette formation. Il est au micro d'Amoury Aleka.
La formation d'aujourd'hui vient répondre à un ensemble de besoins constatés à l'échelle du district. Il s'agit notamment d'une situation observée au niveau intercommunautaire qui exige dans une certaine mesure une meilleure compréhension de l'ensemble de nos partenaires, à la fois gouvernementaux et non gouvernementaux, pour essayer de relever l'ensemble des défis qui s'opposent à l'échelle de la cohabitation pacifique à l'intérieur de ce district.
Quel est le problème que vous avez constaté à l'interne de ce district du Tanganyika?
Au district du Tanganyika, comme partout ailleurs, la question des conflits, c'est quelque chose qui se vit partout où l'on est. Mais disons que le problème fondamental, c'est de voir un peu comment est-ce qu'on essaie de relever les problèmes qui sont rencontrés et trouver une situation d'une meilleure cohabitation qui pourra aboutir à la fin à une meilleure cohabitation entre les différentes composantes nationales. Je crois que c'est ça l'objectif que nous cherchons à réaliser, c'est un peu d'outiller, d'amener les autorités à la fois coutumières, les autorités administratives, les responsables à quelque niveau qu'ils se situent pour mieux comprendre le sens de ce que c'est le conflit, pour pouvoir mieux analyser les conflits et en même temps utiliser les outils jugés être les plus adéquats pour apporter ce solutions ou des solutions aux problèmes posés.
Et aujourd'hui, au Katanga, il y a le problème de conflit entre le Bantou et les Pygmées. Et quelle est l'analyse que vous portez à ces conflits-là?
Bon, il s'agit d'un conflit intercommunautaire. Je ne vais pas aller dans les spécificités particulières, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un besoin. Il y a un besoin pour beaucoup de communautés, beaucoup de sociétés, disons qu'on observe dans une certaine mesure des mutations. Parce qu'on est en train de quitter des sociétés traditionnelles avec un ensemble de pratiques qui font face à un monde moderne où, naturellement, on bute souvent sur un ensemble d'obstacles. Maintenant, la question, c'est de voir ensemble comment aider ces communautés à relever les défis et pour trouver une situation de meilleure entente entre ces différentes composantes-là. Mais je crois que ce n'est pas seulement une particularité ici. C'est quelque chose qu'on observe partout. Et lorsqu'il s'agit de mutations sociales, elles peuvent être violentes, elles peuvent être complexes. Mais l'important, c'est surtout de voir comment est-ce qu'on aborde ces conflits. Et on ne peut pas aborder les questions de conflit si, à la base, on n'a pas les outils requis pour pouvoir répondre de façon convenable, sans que cela ne suscite de la violence, répondre de façon très pacifique aux problèmes qui sont posés.
Magazine des Nations Unies, Portrait du jour.
Bonjour tout le monde, bonjour à tous les écouteurs de Radio Capi. Moi je m'appelle César Pastor Ortega, je suis péruvien et suisse
Je suis marié, père de 3 enfants. Je suis en train de travailler ici à Songo comme team leader, chef d'équipe pour la chaire ici à Songo. J'ai fait un doctorat en anthropologie. J'ai fait des cours aussi d'économie. Et après ma retraite, parce que je suis retraité, j'ai fait un diplôme en gestion des désastres naturels à l'Université de Wisconsin aux États-Unis. J'ai travaillé pour la chaire plus ou moins 26-27 ans. Avant, j'ai travaillé pour la coopération technique suisse en Bolivie. Ça veut dire que mon parcours au niveau de ma carrière professionnelle, c'est au niveau du terrain, au niveau de la réalité. Et c'est ça que j'adore et c'est pour cela que je suis venu travailler ici en tenant compte des difficultés qui sont trouvées des fonctionnaires actuellement au HCR. Vous savez, ici, ce que nous faisons, c'est travailler. Alors, notre emploi de temps, c'est toujours travailler. Samedi, dimanche, on travaille parce qu'il y a des visites, il y a des donateurs. D'abord, je prépare toutes les informations pour partager avec mes collègues. J'ai fait le nécessaire pour que toutes les choses, par exemple, les non-food items, les kitchen sets, les kits hygiéniques, tout ça puisse arriver ici à temps. Je coordonne avec mes collègues tous les gens qui vont partir en mission au niveau du camp. Je signe tous les papiers pour approuver ou désapprouver la demande de carburant, entre autres. Mais sinon, c'est la gestion normale d'une opération et un bureau. Bon, je suis ici au niveau de Songo pour la 2e fois. La première fois, c'était l'année passée. Comme je suis volontaire dans les réfugiés camps, je travaille de temps en temps. Je suis, comme je dis avant, je suis retraité, mais je suis maintenant à partir de février. À partir de février, j'ai vu que la situation était un peu compliquée et je suis venu à donner un appui et à former les staffs HR ici au niveau de Songo. Et ici, comme vous l'avez vu, on est complètement stressé pour le travail. Et la meilleure façon que nous pouvons mettre le stress, parce qu'il y a des stress positifs, il y a des stress négatifs, le stress négatif, je le mets en faisant la course, en montant la petite colline là, et on fait la course 2-3 km de temps en temps à la piste d'atterrissage. Mais sinon, pour me décontracter vraiment, j'écoute la musique. Moi, j'écoute la musique saine, la musique latine, la musique latino-américaine aussi, ça, en plus, j'adore la danse, alors la musique congolaise m'attire et surtout les gens se moquent de moi parce que je pense que j'adore Mario. Alors Mario, ouais. C'est quelque chose que ça m'a. Là, c'est difficile. Mon esprit, ce matin, ne s'est pas encore réveillé. C'est l'après-midi, le soir que je me réveille, tous ces zombies de vouloir danser. Aujourd'hui, je vais danser avec l'ordinateur et avec mes collègues. Comme je dis, je suis retraité, je vais retourner dans mon pays dans 2 mois. Je vais faire une petite vacance
en Suisse.
Et je vais retourner en Suisse et au Pérou. Là, au Pérou, je vais faire une petite école. Puisque j'ai l'énergie encore, je vais faire avec le peu d'argent que j'ai accumulé une petite école pour mes compatriotes. J'adore les enfants, j'adore l'éducation et je pense qu'à travers l'éducation, on peut faire beaucoup de choses. Au niveau des mots, on est en train de sensibiliser les réfugiés, de participer dans les cybercafés, de participer dans toutes sortes d'activités qui puissent améliorer leur vie et surtout l'éducation. Sans éducation, on ne peut rien faire. Bien que papa, c'est très complexe, c'est très difficile, mais quand même, je crois que c'est l'éducation qui peut ouvrir tous les portes et pour faire changer, en particulier en Afrique. En Afrique, moi j'aime beaucoup. Merci beaucoup.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
13 millions de dollars américains sont alloués par les bailleurs de fonds humanitaires pour venir en aide aux déplacés de la RDC. Nous avons sélectionné pour vous la question de Papi Okito. Il est journaliste indépendant, il exerce à Goma. La réponse est proposée par Sylvestre Ntumba Mudingayi, chargé de communication à Ocha. Suivez.
Vous avez dit que vous avez un plan d'action. Vous présentez seulement un plan d'action humanitaire. Et 13 millions, combien vous-même, les organes des Nations Unies, vont prendre? Parce que la plupart, c'est vous qui gagnez plus que les bénéficiaires. Il faut vraiment nous donner les chiffres exacts.
Je vais dire à Papi Okito que lui qui est à Goma et qui a la possibilité de se rendre sur plusieurs sites où on intervient, il se rendra vite compte que la plupart des acteurs de mise en œuvre de projets sont généralement des ONG. C'est vrai, parfois des partenaires des agences des Nations Unies, mais sur les terrains, la majorité de ceux qui mettent en œuvre le projet, ce sont des ONG locales. Par rapport à l'allocation que vient d'accorder le coordonnateur de l'action humanitaire en République démocratique du Congo, c'est ce qu'il faut dire. Il y a eu une évaluation des besoins les secteurs prioritaires ont été définis. Maintenant, on attend des partenaires sur le terrain de présenter maintenant des projets concrets. La cagnotte est là, des projets concrets, et c'est les projets qui s'inscrivent dans les lignes qui ont été définies et qui sont pertinents par rapport aux besoins qui seront financés. A priori, il n'y a pas de ONG privilégiée ou les agences des Nations Unies privilégiées.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Pas beaucoup de rendez-vous la semaine qui commence. Un seul événement inscrit sur le calendrier des Nations Unies, le Forum politique de haut niveau intergouvernemental universel sur le développement durable. Le rendez-vous aura lieu à New York à partir de ce lundi 30 juin jusqu'au 9 juillet prochain. Fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nicole Ngaka a été à la supervision. Jean-Pierre Elali Coco à la coordination et Honoré Missenga au reportage. Paul Badianyama à la régie. Lydie Bettina était à la présentation. L'émission est à réécouter sur notre site internet. C'est le www.radioocapi.net. Je vous souhaite une très bonne journée dominicale. Au revoir.